Le fonds vert, effectivement, il est né à l'origine d'une promesse qui a été prise à Copenhague, donc fin 2009, donc que les pays riches versent 100 milliards de dollars par an à un fonds qui les redistribuerait aux pays en développement. Donc ça a été décidé en 2009, ça fait 2 ans et demi, et ça n'a pas beaucoup avancé. Bon, concrètement, on a un petit peu avancé en 2011 à Durban, c'est là qu'on a décidé de l'architecture globale, et notamment de la création d'un conseil chargé d'administrer. Mais là encore, ça a pris du retard. Donc ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, la mise en œuvre du fonds est très très lente. Ensuite, l'autre chose, c'est que tout le monde ne comprenne pas exactement la même chose. Les pays en développement ont compris, en partant de Copenhague, que les pays riches allaient donner 100 milliards de dollars par an pour les aider. De l'autre côté, les pays développés sont plutôt sur une ligne qui est de dire que cet argent ne sera pas donné par des fonds publics, c'est-à-dire c'est pas l'État français, par exemple, qui va sortir une partie de cet argent, mais ça serait plutôt des fonds privés qui permettraient de financer ces 100 milliards. Et quand je dis plutôt des fonds privés, on évoque une proportion écrasante. Hein. Aujourd'hui, les pays riches disent que le secteur privé devrait contribuer à hauteur de 90-95% de ces 100 milliards. A priori, c'est dirigé vers les pays en développement les plus pauvres pour deux grands axes de travail. D'une part, la transition énergétique ou la réduction des émissions, c'est-à-dire aider ces pays à faire les efforts qu'ils sont prêts à faire et qu'ils peuvent faire dans le domaine. Et puis l'autre partie, c'est les aider à s'adapter aux impacts inévitables du changement. C'est-à-dire que même si on réduisait les émissions à effet de serre de façon drastique aujourd'hui, on sait qu'il y a des impacts qui sont impossibles à éviter.
Comment est-ce qu'on peut s'adapter au changement climatique quand on est un pays pauvre ?
On peut envisager de modifier les cultures pour être plus en rapport avec le climat, protéger le littoral ou au contraire abandonner certaines parties pour replier les activités dans des parties moins menacées par la montée des eaux, lutter contre la salinisation des nappes phréatiques, etc. Enfin, il y a beaucoup de stratégies qui sont parfois très locales et parfois beaucoup plus globales.
Qu'est-ce qu'ils disent quand on leur explique qu'il ne faut pas qu'ils émettent trop de gaz à effet de serre ?
On ne parle pas vraiment de leur demander de faire des efforts. Par contre, on parle d'accompagner les efforts qu'ils seraient prêts à faire volontairement. En l'occurrence, certains États, notamment parmi les États insulaires qui sont les plus menacés par la montée des eaux, ont pris des décisions assez fortes pour totalement décarboniser leurs économies. Ce qu'il faut voir, c'est que ces États, notamment les petites îles, hein, Tuvalu est un bon exemple, les Maldives, etc., c'est des pays qui sont à l'échéance du siècle menacés de disparition. Donc c'est des États qui sont plutôt en pointe, tout au moins dans les annonces, dans la lutte contre les changements climatiques. C'est-à-dire que ce n'est pas leurs émissions qui causent le problème et ce n'est pas la réduction de leurs émissions qui réglera le problème. Par contre, comme pour eux c'est une question de survie, ils sont plutôt motivés pour faire des gros efforts et montrer l'exemple. Après, il y a toute une foule de pays qui sont pauvres, qui ne sont pas en première ligne concernant les pays menacés et qui essaient tant bien que mal de faire des efforts. Et en l'état, disons que ce qui joue plus sur la décarbonisation de leur économie, c'est plutôt la dépendance vis-à-vis du pétrole ou vis-à-vis du charbon qu'ils cherchent à réduire. Globalement, au niveau mondial, beaucoup d'États, quel que soit le niveau de développement, sont conscients, que ce soit pour une raison économique ou une raison climatique, qu'il faut décarboniser l'économie. A priori, il n'y a pas vraiment de désaccord là-dessus. Après, c'est qui doit faire les efforts, quels sont les efforts à imposer impérativement ou au contraire sur la base du volontariat, c'est ce genre de choses qui font débat.
Est-ce que pour les BRICS ou les pays émergents ou les pays industrialisés européens, États-Unis, etc., c'est pas une manière, ce fonds vert, de se dédouaner des efforts que eux ne font pas sur leur propre territoire ?
Si on regarde un petit peu la façon dont se déroulent les négociations depuis Bali, on s'aperçoit qu'en 2007, en gros, la communauté internationale s'était entendue pour qu'on obtienne un accord 2 ans après pour prendre le relais du protocole de Kyoto qui s'achève à la fin de l'année 2012. Bon, on a vu que cet accord n'est jamais arrivé, et notamment parce que beaucoup d'États étaient opposés à marquer noir sur blanc les efforts contraignants qu'ils seraient prêts à faire. La nouvelle feuille de route qui a été prise donc à Durban en 2011 prévoit un accord en 2015, cette fois-ci, pour une mise en œuvre en 2020. Oui, on a perdu 8 ans, et ces 8 ans, c'est lié effectivement au fait que les principaux émetteurs, c'est-à-dire les pays développés d'une part et les pays émergents d'autre part, n'arrivent pas à s'entendre, se renvoient la balle. Par exemple, les États-Unis disent que la Chine est le premier émetteur qui doit agir. Et la Chine dit oui, mais historiquement, les premiers émetteurs, c'est les pays développés, c'est à eux d'agir. C'est ce genre de rhétorique en permanence. Alors aujourd'hui, on s'intéresse à des détails, mais c'est vrai que on ne traite pas du fond du problème. Et c'est un peu la même chose avec le fonds vert. On ne va pas vraiment discuter de qui donnera l'argent et comment il sera alimenté ou comment les fonds seront distribués. On va surtout s'inquiéter de savoir où est-ce qu'il sera installé déjà. Depuis 2009, on parle beaucoup de détails et on occulte complètement les vrais sujets de la négociation climatique.
Pour vous, il faudrait quoi? Un fonds pour optimiser les énergies propres, inciter les pays émergents ou industrialisés à eux aussi se dynamiser sur des énergies autres qui seraient renouvelables, durables, etc.
Les pays émergents, hein, les pays qui composent les BRIC, deviennent de plus en plus des gros émetteurs de CO2 et participent de plus en plus aux problèmes. Il faut voir qu'aujourd'hui, la Chine émet plus de CO2 par exemple que les États-Unis et la Chine est le premier émetteur mondial. Ceci dit, il ne reste pas inactif et la Chine a des programmes particulièrement ambitieux dans l'éolien, dans le solaire, etc. Et même si on veut changer un peu d'angle pour observer tout ça, il est intéressant de voir que l'OMC est de plus en plus saisi sur des querelles entre notamment la Chine et les pays développés, les Américains accusant les Chinois, par exemple, de trop subventionner leur éolien ou le photovoltaïque. Donc on est plutôt dans une situation où tous les États du monde sont conscients qu'il y a devant nous une nouvelle révolution énergétique qui va avoir lieu, que cette révolution elle va tourner autour des énergies renouvelables. Et aujourd'hui, ils se querellent pour prendre le leadership de cette révolution. Donc, les pays émergents sont engagés, plus proactifs.